Nous sommes très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Nous sommes au mercredi 2 octobre 2024. Il sonne 11h. Sur votre radio, vous comprenez que vous avez rendez-vous avec l'émission Club de la Presse. Sur votre radio, bien sûr, sur la 93.5. Bienvenue à ce troisième numéro de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était aussi à TVA sur la mise en onde, Gérard Akucha sur la mise en ligne, je suis Pascal Lousseau Micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez en direct partout au Togo grâce à nos radios partenaires, Radio Lumière à Nero, Radio La Paix à Takpame, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Vous avez ce privilège aussi de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre page YouTube et Facebook, également nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays. Et aussi d'ailleurs, c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi et aussi des invités dans cette émission. Bien sûr, nous aurons un invité politique. Il s'agit bien sûr de Monsieur Nathanaël Olympio qui est déjà avec nous. Monsieur Nathanaël Olympio, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Oui, je vais bien, merci.
Dieu merci, et merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. Mais bien avant de parler politique, puisque vous êtes un homme politique, parler politique et surtout de la situation sociopolitique de notre pays, nous allons aborder la santé, puisqu'il faut aussi être en bonne santé avant de faire la politique. Et pour en parler de la santé, il y a William qui est avec nous. William Abel, bonjour.
Pascal, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de Canal FM. Bonjour au président. Nous sommes mercredi, nous allons parler santé. Et je crois que nous serons encore édifiés par les conseils, la prévention, et surtout dans le domaine de la santé.
J'espère que tu vas bien.
On rend grâce à Dieu pour toutes choses.
L'essentiel, c'est ça. Rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Abel, votre journal Santé Éducation est dans les kiosques hein, ce matin. Et nous allons parler même d'ailleurs des articles que vous avez écrits, et surtout la une à l'heure du journal. Et vous écrivez ce matin à la une à l'heure du journal 10 aliments à limiter à partir de 45 ans. Donc, ce qui veut dire tout simplement qu'il y a des aliments que nous devons limiter déjà à partir de 45 ans, c'est ça?
Exactement. D'abord, j'aimerais inviter tous à lire cet article parce que c'est pour le bien de tout le monde. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes au carrefour des maladies cardiovasculaires, au carrefour des maladies non transmissibles. Et ce sont des maladies qui causent beaucoup de décès. Et aujourd'hui, elles sont devenues banales. Et moins de choses, on dit la personne a un AVC, a une crise cardiaque, a un arrêt cardiaque, et c'est devenu banal. Et quand nous prenons les chiffres de l'OMS, par exemple, l'OMS dit que dans le monde entier, les maladies cardiovasculaires font 18,6 millions de victimes chaque année. Ça, c'est le chiffre de l'OMS. Et ces maladies surviennent en 30 et 70 ans. Donc, voilà un peu la particularité de ces maladies. Au Togo, quand on vient au Togo, et on voit que ces maladies touchent tout le monde. Personne n'est épargné. En fait, personne n'est épargné par les AVC, les arrêts cardiaques, l'hypertension. Personne n'est épargné. Donc, au Togo, il y a une étude qui a été faite il y a plusieurs années sur des milliers de patients, sur l'évolution des admissions par maladie cardiovasculaire en milieu cardiologique à Lomé. Donc, l'étude a constaté que l'âge moyen des personnes qui sont admises en fait en unité de cardiologie à Lomé, c'est de 49,5 ans. Ça, c'est l'âge moyen des personnes qui sont admises. Mmh. Voilà. Donc, on voit que ces maladies aujourd'hui sont un fléau dans notre pays. Et il faut miser aujourd'hui sur la prévention. Et la prévention, quelle prévention adopter? Et quelle prévention adopter? Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour freiner ces maladies? Et l'un des aspects importants à avoir, à privilégier, c'est l'alimentation. Et l'alimentation aujourd'hui, et Pascal, je vous dis aujourd'hui, beaucoup de Togolais mangent très mal. Et quand on mange très mal, on est à risque de beaucoup de maladies cardiovasculaires, diabète, hypertension, AVC, arrêt cardiaque, tout ce que nous connaissons comme maladies non transmissibles, jusqu'au cancer également. Et dans cet article, on évoque certains aliments qu'il faut éviter à partir de 45 ans. Je commence d'abord par l'alcool. Il faut limiter. Les boissons énergisantes, la viande rouge, la charcuterie. Donc, ce sont ces aliments auxquels il faut faire beaucoup attention quand on a cet âge-là. Parce qu'à cet âge-là, on est à risque d'être hospitalisé pour une maladie cardiovasculaire. Et ce sera pour nous fatal à la longue. Donc, il faut qu'on comprenne que l'alimentation doit jouer un rôle important pour notre santé. Et nous devons faire attention à ces aliments-là.
Il est souvent dit même d'ailleurs que notre alimentation soit aussi notre médicament.
Exactement. Comme le dit Hippocrate, et ces aliments qu'on vient de citer, attention, si on en consomme en excès, ouais, des gens consomment des frites le soir. Et
c'est ce qui est à la vogue maintenant.
Voilà. Ils en consomment des charcuteries, des viandes rouges en excès. Il y a une étude qui dit les personnes qui ont ce genre d'alimentation ont un risque de maladie cardiaque de 40% plus élevé et un risque de décès prématuré de 37%. Ça, c'est une étude internationale. Donc, l'alerte est lancée. Il faut que chacun puisse être acteur de sa propre santé.
C'est très important que chacun soit vraiment acteur de sa propre santé, comme vous le dites. Merci. Alors, vous vous intéressez à un autre article, hein, et un autre sujet, hein, c'est bien des malaises chez les seniors. Et vous écrivez 8 recettes naturelles contre malaise chez les seniors. Il n'y a pas que 8 recettes.
Oui, nous avons proposé 8 recettes. Hier, 1er octobre, c'était la journée mondiale des personnes internationales des personnes âgées.
Tout à fait.
Donc, nous avons pensé à nos seniors, nous avons pensé à nos personnes âgées, parce que c'est important. C'est important. Quand déjà on voit le thème qui est dédié à cette journée, le thème dit « Vieillir dans la dignité, l'importance de renforcer les systèmes de santé et d'aide aux personnes âgées dans le monde entier ». Donc, il faut comprendre que les gens qui vivent plus longtemps et ont des meilleurs soins de santé, ont une meilleure alimentation, ont une meilleure hygiène de vie et ont une meilleure prise en charge médicale. Donc, lorsqu'on vieillit, on peut voir que les personnes qui vieillissent, les personnes âgées, ont souvent des malaises. Et en fait, le corps n'arrive pas à s'adapter à certaines conditions et physiques. Donc, la capacité à pouvoir être en bonne santé diminue. Donc, beaucoup de malaise affectent nos personnes âgées. On peut citer par exemple le manque d'air inhabituel. Il y a également des nausées qui viennent. On peut également voir des pertes d'équilibre qui entraînent des chutes chez les personnes âgées. Et il y a également des troubles de mémoire. Ces maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson. Et il y a également, on peut citer également des dysfonctionnements érectiles au niveau des hommes et au niveau des femmes. On peut voir des saignements vaginaux après la ménopause, tout ça là. Donc, ce sont ces malaises et ces affections qui touchent les personnes âgées. Donc, nous avons proposé des recommandations, des recettes maison qui peuvent les aider et qui peuvent les aider à maintenir en fait un système immunitaire optimal, pour que enfin ils puissent vieillir en bonne santé. En fait, c'est l'objectif, vieillir en bonne santé. Et sans oublier également la prise en charge médicale, qui est vraiment important. Donc, nous interpellons encore les associations qui sont dans la prise en charge des personnes âgées de continuer par redoubler d'efforts en faveur de cette cible-là. Et nous saluons également, en passant, INAM qui et souvent organise des universités du troisième âge pour promouvoir la santé cette cible-là.
Alors, quand on parle des personnes âgées, même, elles sont classées souvent, même d'ailleurs, dans la couche vulnérable, ce qui veut dire tout simplement qu'on doit justement prendre soin alors de cette couche. C'est très important.
C'est très important.
Ouais. Alors, je ne sais pas si le sommeil fait partie également de cette prise en charge au niveau, même d'ailleurs, de personnes âgées, mais vous intéressez à une catégorie de sommeil qui est la sieste, et vous dites alors la sieste pour booster la santé.
Exactement. Nous avons cette mauvaise habitude de ne pas faire la sieste. Vous savez, dans les bureaux, dans nos entreprises, beaucoup travaillent du matin jusqu'au soir sans avoir une petite sieste. Bon, selon beaucoup de recommandations scientifiques, médicales, en fait, c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Il faut faire la sieste. Il faut se reposer quelques minutes avant de reprendre le travail. Pourquoi ? Aujourd'hui, quand vous faites la sieste dans un bureau, on perçoit comme si c'est une marque de paresse. En fait, c'est pas ça. En fait, c'est pas ça. Et parce que la sieste, c'est quoi ? La sieste, c'est en fait un précieux allié pour compenser, compenser un sommeil nocturne insuffisant. Donc, selon des médecins du travail, et ces chercheurs, bien ces spécialistes recommandent de faire la sieste entre 2 et 5 heures. Donc pour ceux qui travaillent la nuit, pour les travailleurs de nuit, et entre 13 heures et 15 heures pour les autres. Voilà un peu la fourchette, la recommandation. Voilà. Donc on doit comprendre que pour faire la sieste, il faut se mettre dans une position adéquate, il faut être peut-être allongé ou semi-allongé. Et il faut s'installer confortablement pour ne pas éviter les chutes, quoi.
Et mais d'habitude, nous pensons même d'ailleurs que la sieste, c'est une perte de temps. Parce que nous nous disons même d'ailleurs que les 24 heures ne nous suffisent pas. Comment prendre encore quelques minutes alors dans les 24 heures pour faire une sieste?
Je l'ai dit tantôt, en fait, c'est une mauvaise habitude qu'on a. Il faut qu'on renoue avec la sieste dans les entreprises, même à la maison, il faut qu'on renoue. Parce que beaucoup ne comprennent pas en fait le bien fondé, l'importance de faire une sieste. Parce que ça a des impacts positifs sur notre système immunitaire, sur la productivité en fait. La sieste aide beaucoup à réduire l'hypertension artérielle.
D'accord.
Voilà. Donc, dans cet article, vous allez voir tous les bénéfices de la sieste. Qui sont très importants.
D'accord, qui sont très importants. Et ce sont des sujets très importants et nous devons quand même prendre soin même d'ailleurs de notre santé. Abel, si nous voudrons avoir votre journal dans les kiosques aujourd'hui, quelles sont les conditions et également sur quel numéro on peut vous appeler?
Le journal est déjà disponible dans les kiosques et d'ailleurs sur notre site internet sante-education.tg. La version numérique au prix de 500 francs et déjà dans les kiosques au prix de 1000 francs seulement. Voilà, donc on peut nous contacter sur le numéro 96 14 96 97 ou le 91 79 47 07.
Abel William, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission pour parler de la santé ou des sujets liés à la santé tels qu'évoqués par votre journal Santé Éducation dans les kiosques ce matin. Merci d'être passé. Nous sommes rejoints par notre confrère Sylvestre Béni. Sylvestre, bonjour.
Oui, bonjour Pascal et bonjour à toutes et à tous.
J'espère que tu vas bien.
Non, ça va.
Ça va?
Je vais bien.
Dieu merci.
Je suis en forme.
D'accord. Alors, nous en parlions, nous avons un invité politique. Aujourd'hui, c'est bien Nathanaël Olympio. Monsieur Olympio, rebonjour.
Bonjour à tous les auditeurs et bonjour à l'équipe Canal FM.
Et c'est vrai que nous avons parlé de santé maintenant avec cette question des personnes âgées. La journée internationale des personnes âgées, c'était hier. Et aussi, nous avons parlé de la sieste. Est-ce que vous avez l'habitude de faire la sieste?
J'ai la mauvaise habitude de ne pas en faire.
je vous connais très chargé et je sais peut-être que, compte tenu alors de ces charges ou de ces occupations, peut-être que c'est ce qui fait que vous ne faites pas la sieste.
Oui, en fait, je pense que c'est beaucoup plus par habitude. Et depuis que j'ai commencé ma vie professionnelle en Occident, Et jusqu'à aujourd'hui, bon, l'habitude est prise, je ne fais pas de sieste.
D'accord. Mais sinon, je pense quand même que c'est une recommandation et il nous est important alors de faire la sieste pour avoir aussi une bonne santé, n'est-ce pas, Sylvestre?
Oui, mais
je ne sais pas si Sylvestre le fait quand même.
Non, écoutez, je ne fais pas trop de sieste. Hein. Bon, si je suis prêt par le sommeil, voilà quoi. Mais bon, prendre le temps et aller faire siester, bon, je crois, pour moi, c'est une perte de temps. Puisque avec ça, je suis déjà à 3 paragraphes de mon article, tu vois.
D'accord. Je comprends très bien. Alors, oui, mais nous ne pouvons pas démarrer cette émission sans parler de la vie sociopolitique ou de l'actualité sociopolitique de notre pays. Alors, monsieur Olympio, vous n'êtes pas sans savoir que déjà le dimanche passé, il y a eu cette violence au siège alors de la CDPA. Et vous avez fait sortir même d'ailleurs un communiqué pour dénoncer, condamner cela. Mais quand vous avez appris l'événement, cet événement qui s'est produit au siège de la CDPA, comment vous avez appris cela?
Écoutez, ce sont des amis qui étaient présents là-bas qui m'ont informé, qui m'ont alerté de ce qui se passait là-bas, puisque je n'étais pas à Lomé, mais je savais que cette rencontre devait avoir lieu. Et c'était dans une panique, dans un désarroi, que l'information m'a été donnée. Et je dois vous dire que j'étais choqué, parce que notre État montre encore aux yeux du monde que c'est un État violent. C'est un État qui finalement utilise la violence pour taire tout ce qui ne leur convient pas. Et quand on sort de notre petit microcosme habituel et on s'en prend à un député d'une autre nation, du Parlement de la CDAO, Guy Marius Sagnan, qui est de passage officiellement dans notre pays, et qui veut échanger avec des citoyens togolais tout à fait dans la paix, paisiblement. Et à quoi on assiste? On voit des gens qui débarquent, ils ne se cachent même pas, le visage découvert, et ils sèment le désordre. Mais ce que j'ai vu dans les images et ce que j'ai entendu de la part de ceux qui étaient présents, mais c'était des professionnels du combat qui étaient là, des professionnels du combat. Des gens qui ont le réflexe de prendre le trépied des journalistes pour en faire une arme. Des gens qui ont le réflexe de prendre la moindre chose qu'ils ont sous la main pour en faire une arme. C'était donc des gens qui ont opéré comme le font les commandos. Voyez-vous? Donc, et c'est fait dans un laps de temps très court. Et ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire très rapidement et ils repartent. Je pense que et personne n'ignore que le régime togolais a une responsabilité dans ce qui s'est passé. Et ce n'est pas acceptable. C'est quelque chose d'inqualifiable qui n'honore pas notre pays.
C'est quelque chose d'inqualifiable qui n'honore pas notre pays. Alors, quand on voit la chose telle que cela s'est passé, on se demande en quoi une réunion citoyenne ou une rencontre citoyenne peut déranger.
Parce que le régime a peur. Le régime a peur de voir des gens parler avec les citoyens. Le régime a peur de voir 4, 5, 6, 10 personnes se réunir. Vous savez, quand vous dirigez un pays et que vous êtes dans l'injustice, vous êtes dans le mépris des droits des autres, vous êtes dans la violence, eh bien, vous savez que les gens ne vont pas apprécier, la population ne va pas apprécier. Et un jour ou un autre, cette population va demander des comptes parce qu'elle nourrit un ressentiment, elle nourrit une révolte en elle. C'est de ça que le régime a peur. Et donc, on anticipe, on interdit tout. Et nous avons voulu aller à Sokodé le 20 septembre dernier juste pour des prières et pour distribuer des kits aux enfants des détenus politiques. Cela a été interdit. Parce que, dit le ministre dit que, eh bien, ça n'assure pas, il n'y a pas de garantie de tranquillité de la population. Vous comprenez que ce régime est acculé. Ce régime a peur. Et donc, quand on a peur, on exerce la violence sur les autres. Et ce n'est pas acceptable.
Ce n'est pas acceptable. Oui, mais quand, dans votre communiqué que vous avez sorti, c'est vrai que vous avez rappelé ces interdictions, puisque vous en parlez tout de suite concernant surtout cette manifestation ou cette activité que vous avez voulu organiser à Sokodé, c'est-à-dire l'activité alors de prière, de solidarité, et à l'endroit surtout de la famille ou des familles, alors des personnes détenues ou des détenues politiques, comme vous le dites. Et finalement, quand on prend même d'ailleurs une prière qui a été refusée, ou du moins ce qui a été interdit, j'allais dire, alors finalement, en quoi aussi la prière peut constituer aussi d'éléments qui ne pourra pas apporter de tranquillité?
Eh bien, ça, c'est la question qui cache mal la réalité. C'est quoi la réalité? La réalité, c'est que toutes les activités, toutes les initiatives que les citoyens peuvent prendre, que la société civile peut prendre, que les partis politiques peuvent prendre, eh bien, tout ça, la seule chose qui préoccupe le pouvoir, c'est de les interdire. On se souvient comment les manifestations de Novation internationale ont été systématiquement interdites. On se souvient de beaucoup de manifestations qui n'ont jamais obtenu le droit de l'exercer. Alors que, vous savez, la loi que ce régime lui-même a mise en place, la loi sur les manifestations publiques, cette loi dit clairement que, c'est l'article 13 qui le dit, les manifestations publiques, il faut un certain nombre de conditions pour qu'elles puissent être reportées par le ministre ou interdites par le ministre. Les conditions, c'est quoi? La première chose que le ministre doit faire, c'est de faire des recommandations quand cela est nécessaire aux organisateurs, en leur disant par exemple, vous pouvez changer le lieu, vous pouvez changer l'heure, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. Ce sont des recommandations qu'on adresse aux organisateurs. Et ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est que le ministre a le devoir de se déplacer et aller sur le lieu où doit se tenir cet événement pour apprécier les conditions dans lesquelles les choses doivent se passer. Je peux vous garantir que le ministre, aujourd'hui, ne suit pas cette prescription de la loi, ne suit pas cette disposition de la loi. La seule chose qu'il fait, c'est de prendre son bic et de signer une lettre pour dire « j'interdis parce que j'ai le pouvoir ». Dans quel état sommes-nous? C'est un état d'arbitraire où les lois que le régime lui-même a mises en place, qui sont déjà des lois liberticides que nous dénonçons, eh bien, même ces lois, ils ne les respectent pas. C'est un abus de pouvoir. C'est pour ça
Oui, mais souvent, il y a le ministre quand même qui donne des raisons. Par rapport même d'ailleurs à ces interdictions, il y a des raisons quand même qu'on vous notifie souvent.
Mais ce sont des arguments, c'est fallacieux. Le ministre, pour ce qui nous concerne, le 20 septembre, la prière et la journée de solidarité qui a été interdite, qu'est-ce qu'il a donné comme argument? Aucun. Il a simplement dit, ça ne garantit pas la tranquillité de la population. Qu'est-ce qui ne garantit pas la tranquillité de la population? Et pourquoi n'est-il pas passé d'abord par la phase de recommandation et de visite du site? Il ne l'a pas fait. Il a violé la loi. C'est pour ça que nous allons attaquer cet abus de pouvoir auprès de la Cour suprême, auprès de la chambre administrative de la Cour suprême. Nous allons l'attaquer et on verra ce que les magistrats vont prendre comme position sur cette situation.
L'attaquer, vous pensez que vous aurez droit, enfin vous aurez raison ou vous aurez forcément alors comme un gain de cause?
Nous espérons que les magistrats vont dire le droit et je rêve de ce qui s'est passé au Sénégal. Oui, on parle encore du Sénégal. Parce que les magistrats au Sénégal ont barré la route au troisième mandat du président Macky Sall en disant le droit. Nous espérons et nous attendons avec impatience et espoir qu'au Togo, on aura des magistrats qui auront le courage, je dis bien le courage, de dire le droit.
D'accord. Sylvestre a une question pour vous. Sylvestre?
Oui, je crois que en interdisant la manifestation du 27 septembre, le ministre a sorti juste un communiqué. C'est avec un communiqué qu'on a en fait refusé cette manifestation. Or, lorsque vous parcourez un peu la loi, il faudrait un acte administratif. Et je crois que le Front ne touche pas ma caution ne peut attaquer qu'un acte administratif. Or, la dernière fois, c'était juste un communiqué que le ministre a sorti pour interdire la manifestation. Est-ce qu'à leur niveau, est-ce qu'ils ont encore un moyen de recours? Puisqu'ils ne peuvent pas prendre un simple communiqué du ministre et aller l'attaquer devant donc les juridictions.
Alors, ce que vous dites là vient conforter déjà ce que nous sommes en train de dire. Puisque le ministre n'a pas posé l'acte administratif qu'il fallait, c'est-à-dire un arrêté pour notifier l'interdiction. Ça a été fait par simple correspondance, une simple lettre. Donc, l'objectif derrière, c'est de nous priver d'un droit de recours. Donc, c'est une violation également de notre droit. Donc, nous allons attaquer cette violation-là. D'abord, pourquoi il ne prend pas un acte administratif en bonne et due forme? C'est la première question. Et la deuxième question, c'est pourquoi n'a-t-il pas suivi les dispositions de l'article 13 qui stipule les choses que je venais d'évoquer tout à l'heure. C'est simplement un abus de pouvoir, une violation de la loi et de la Constitution.
D'accord. Abbas?
Oui. Bonjour Pascal, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à M. Nathanel, que il y a longtemps je n'ai plus vu.
D'accord.
Parce que par rapport à la question de Sylvestre, je pense qu'un communiqué est inattaquable. Et en même temps, vous parlez de violation des droits, des textes et autres. Est-ce en fait un acte conventionnel que vous allez poser, c'est-à-dire que vous allez porter plainte contre le gouvernement pour cet acte ou bien c'est pour attaquer pour violation des droits de l'homme?
Nous allons attaquer la décision d'interdition qui n'a été notifiée pas par un communiqué mais par une lettre qui nous a été adressée. D'accord? Et hors délai d'ailleurs. Donc tout ça, nous allons l'attaquer auprès du juge administratif et on verra ce que les juges vont décider.
Donc, ce n'est pas une plainte que vous allez poser.
On verra ce que les juges vont décider par rapport à notre recours auprès de la Chambre administrative.
Donc, d'accord. L'autre question, oui. C'est le fait de dire, dans la lettre du ministre, je pense qu'il est souligné qu'il y a certaines organisations qui sont citées, qui ne sont pas membres de ne touchent pas à ma constitution. Est-ce que c'est vrai? On a cité certaines...
Bon, en fait, je crois qu'il disait qu'il y a certaines organisations qui n'ont pas une base légale.
Un fondement légal.
Oui, il citait Bingidje, Assam ou quelque chose, qui n'ont pas, en fait, une base légale. Voilà.
Alors, c'est de la part du ministre de l'administration territoriale une manipulation. Je dis bien une manipulation. Pourquoi? Trois organisations sont les organisateurs de cet événement-là. Il y a la Ligue togolaise des droits de l'homme, il y a le parti Les Démocrates et il y a le parti des Togolais. Ce sont les trois organisateurs de cette manifestation. Et bien sûr, sur l'entête de notre lettre, il y avait une liste d'organisations avec lesquelles nous sommes ensemble dans le Front Touche pas à ma Constitution. Mais les organisations que le ministre met en cause ne sont pas les organisateurs. Je ne vois pas en quoi il va se cacher derrière le fait que tel ou tel ne serait pas conforme à ce qu'il attend en matière d'existence légale pour interdire ce que d'autres organisations organisent. Ça n'a pas de sens. C'est un abus de pouvoir. Et ce sont des raisons qui ne tiennent pas la route. Ça n'a pas de sens. Quelqu'un fait quelque chose, on vient te dire que, comme l'autre, le voisin, qui dit qu'il sera à côté de toi, et lui, il n'est pas reconnu, donc ce que tu fais, eh bien, je l'annule, je l'interdis. Mais on l'a déjà vu ça où? Si ce n'est au Togo.
D'accord. Alors, oui, mais avec ces interdictions, est-ce que vous avez l'impression que l'espace civique aujourd'hui est restreint?
L'espace civique au Togo est réduit à sa plus simple expression. C'est-à-dire, chaque jour, l'étau se resserre sur nos libertés publiques, l'étau se resserre sur les droits qui sont les nôtres. La Constitution elle-même, elle n'est plus respectée. Et je dois vous dire que ceci se complique davantage, cette pression sur les organisations, sur les citoyens, elle devient de plus en plus forte depuis que le régime a décidé de changer la constitution. Ils ont peur de ce qu'ils ont créé parce qu'ils savent que le peuple n'est pas content. Et la réponse qu'ils nous donnent, c'est la violence, c'est l'abus de pouvoir, c'est la répression. On ne peut pas continuer dans ces conditions-là. C'est créer les conditions d'une explosion sociale. Parce que personne ne peut supporter durablement d'être opprimé de cette façon. Et que les droits les plus élémentaires soient bafoués tous les jours que Dieu fait.
D'accord. Sylvestre.
Oui, oui, j'avais entendu une question. Lorsque vous prenez les dispositions de cette loi, il est également dit qu'avant que le ministre formule la recommandation, il peut se rendre sur les lieux, sur le site, et de concert avec les organisateurs, c'est ce que dit donc la disposition, est constatée. Et c'est en cela qu'il pourra formuler des recommandations ou vous demander même de suspendre la manifestation. Maintenant, si le ministre ne le fait pas, est-ce que vous, hein, du côté des organisations, vous avez quand même demandé au ministre de venir et ensemble aller sur le site, constater effectivement ce que vous allez faire et pour lui permettre peut-être de se prononcer en filant.
Mais comment les choses se passent? La loi nous dit que nous devons adresser une correspondance pour informer le ministre. C'est une lettre d'information. Maintenant, à la réception de cette lettre, c'est au ministre d'apprécier la procédure qu'il veut engager. S'il veut nous rencontrer, s'il veut aller sur le site, s'il veut qu'on discute des conditions, c'est à lui de prendre l'initiative. Mais dans le cas d'espèce, nous avons simplement reçu une lettre disant « j'ai interdit parce que j'ai décidé ». Vous savez, cette façon de gérer le peuple ne peut pas être acceptée. Personne ne peut accepter. Même un père et ses enfants, une mère et ses enfants, il y a un dialogue pour qu'on se comprenne. Le rôle du ministre, c'est de s'assurer qu'il y ait la sécurité pour tous les citoyens. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le 20 septembre, ils ont interdit cette journée de prière. Mais le même jour, ils ont autorisé des manifestations de la part du parti au pouvoir. C'est deux poids, deux mesures. C'est une discrimination. Et c'est illégal.
Intéressons-nous maintenant à cette question de constitution, parce que votre front touche par ma constitution, et conteste même d'ailleurs cette nouvelle constitution, mais on sait qu'il y a déjà les gouverneurs qui sont nommés, il y a un certain nombre de choses, même d'ailleurs, qui se font dans cette, à l'envers, comment l'appelle-t-on, le fait alors de mettre en place alors ces institutions, les différentes institutions. Alors, finalement, est-ce que ce combat aura vraiment gain de cause?
La première fois que le régime a changé les éléments de la Constitution de 1992, c'était en 2002. Et nous avons toujours contesté cette modification. L'opposition togolaise, le peuple togolais a toujours constaté cela, a contesté cela. Ce n'est qu'en 2019 que les choses ont été rétablies pour ce qui concerne, par exemple, l'élection à deux tours. Ça, c'est un exemple. Il a fallu de 2002 à 2019, ça fait quoi? Ça fait 17 ans de lutte pour obtenir quelque chose. Donc, ils ont voté leur loi. Ils nous ont imposé leur constitution. Ils ont aujourd'hui leur 5e République. Nous n'allons pas lâcher. On va continuer à se battre, à dénoncer jusqu'à ce que ce pays redevienne un état de droit. Parce que nous ne sommes pas dans un état de droit. C'est ça le vrai sujet. La constitution qui est modifiée sans informer le peuple, c'est une conséquence de l'absence de l'état de droit. Le fait qu'on jette en prison des citoyens pour leurs opinions, c'est parce que nous ne sommes pas dans un état de droit. Donc, toutes ces choses que nous combattons, en réalité, ce sont les conséquences de la mauvaise gouvernance et de l'absence d'état de droit. C'est pour ça que le vrai combat que nous menons, que ce soit à travers le changement de constitution, que ce soit à travers les détenus politiques, que ce soit à travers la cherté de la vie, la corruption, tous ces combats-là n'ont qu'un seul objectif, c'est de faire en sorte que ce pays connaisse l'état de droit. C'est de changer le régime qui est en place, parce que ce régime est là depuis des décennies. Il ne peut plus changer, il ne peut plus rien proposer de nouveau aux Togolais. Nous devons nous battre pour qu'il change. C'est ça l'objectif que nous poursuivons.
Ah, mais oui, mais j'ai envie de vous demander, vous battre comment? Comment ça va se faire? Parce que déjà quand il y a des manifestations qui sont interdites et tout, ça se fera comment?
Oui, ça se fera par la persévérance. Ça se fera par le courage. Il faut qu'on retrouve le courage parce que c'est vrai. Avec la violence qui s'exerce sur la population, avec les gens qu'on emprisonne pour un oui ou pour un non, cela fait peur à la population et c'est légitime, c'est humain. Mais à un moment donné, nous devons dépasser la peur. Nous devons sortir de cette misère qu'on impose au peuple togolais. Ça ne peut pas durer. Aucun peuple n'accepte d'être traité de cette manière indéfiniment. Un jour viendra où la révolte qui gronde à l'intérieur des Togolais va sortir du cœur des gens et va s'exprimer aux yeux de tout le monde.
Sylvestre, une question?
Non, je crois que c'est plutôt c'est le Abbas, bien Abbas, oui, Abbas qui avait une question.
Voilà, Abbas, allez-y.
Ouais, tout à l'heure, lorsque vous êtes en train de vous prononcer sur les modifications de la Constitution, vous avez cité certaines dates. Et ces dates-là, et surtout à cette date-là que l'opposition est absente au Parlement. C'est quand il y a ces absences-là, ces boycotts-là, que le pouvoir aussi profite pour dire que nous avons le boulevard ouvert, on va le faire. Est-ce que aujourd'hui là, vous ne mettez pas ces modifications dont vous dites ils ont modifié là, sur le dos de cette opposition-là qui boycotte les travaux de l'Assemblée lorsqu'ils sont élus, qui sont à l'Assemblée nationale, disent que nous ne voulons pas. 1999, c'était le cas. 2000, jusqu'à ce jour de 2024, comme ça, c'est le cas. Est-ce que l'erreur ne provient pas aussi de là, s'il y avait une majorité vocale?
Mon cher Abbas, ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui gouvernent son pays, ce pays, sont irresponsables. Ça veut dire qu'ils profitent de l'absence de l'opposition pour semer le désordre dans le pays, pour semer le chaos dans le pays. Ils sont irresponsables de fonctionner comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Diriger un pays, c'est apporter le bien-être à la population. Ce n'est pas parce que l'opposition est absente qu'ils vont profiter pour créer le désordre, le chaos, la misère. Où est-ce qu'on a déjà vu ça? Ce n'est pas responsable. C'est pour ça que ça doit changer. Nous devons avoir un gouvernement, un pouvoir qui travaille pour le bien-être de tout le monde. C'est ce que nous demandons. Qu'est-ce qui les empêche de le faire? Est-ce qu'ils ont besoin de l'opposition pour faire ce travail-là? Ceux pour lesquels ils sont en place et ils se battent pour avoir le pouvoir en permanence, mais ils n'en font rien de positif. Encore ces jours-ci, il y a des scandales qui secoue notre pays. Nous tous, nous avons vu sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont devenus nos canaux d'information maintenant. On a vu sur les réseaux sociaux comment des Togolais sont en train de se battre sur un dépotoir développé, là où on jette ce qui est pourri, ce qu'on ne veut pas. Des citoyens togolais ont tellement faim qu'ils sont sur les dépotoirs en train de se battre pour avoir du riz à manger, du riz à varier. C'est ça, la gouvernance qu'on nous offre au Togo. Est-ce que c'est acceptable? Parce que l'opposition n'est pas à l'Assemblée nationale, on doit permettre des choses comme ça? Je ne peux pas l'accepter. Et ça me révolte. Nous sommes dans un pays, excusez-moi, j'ajoute un point et je m'arrête. Nous sommes dans un pays où les scandales défraient la chronique. Je ne veux pas revenir sur les scandales de corruption. Mais on a tous appris récemment le viol d'une petite fille dans une école. Ce sont des choses contre lesquelles tout le monde doit se lever. Tout le monde. Mais nous n'avons pas vu ça. Au contraire, ce qu'on voit, le spectacle qu'on nous offre, ne nous rassure pas. Est-ce que nous sommes dans un pays où notre sécurité, la sécurité de nos enfants dans les écoles est assurée? Moi, je me pose la question.
D'accord. Alors, revenons un peu à la violence du dimanche dernier, ce qui s'est passé justement au siège alors de la CDPA. Et le Parlement de la CDAO a fait sortir un communiqué. Je vais vous livrer la teneur alors de ce communiqué, Monsieur Olympio. Lomé, 2 octobre 2024, le Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, a pris avec regret l'agression physique dont l'honorable député Guy Marus Sagna a été victime le dimanche 29 septembre 2024 à Lomé, Togo, alors qu'il participait à une réunion non autorisée d'un collectif de partis de l'opposition togolaise et d'organisations de la société civile en marge de la troisième session extraordinaire du Parlement à laquelle il prenait part. Le Parlement de la CEDEAO condamne cet acte de violence et souhaite un prompt rétablissement au député Guy Marus Sagna et à tous les autres blessés. Le Parlement de la CEDEAO rassure l'opinion qu'il suit avec attention les dispositions prises par les autorités togolaises pour la sécurité du député ainsi que les autres mesures nécessaires en pareille circonstance. Alors, Monsieur Olympio, ce communiqué de presse que je viens alors de lire, quelle est votre appréciation là-dessus?
Moi, j'ai comme l'impression que la CEDEAO a donné à ce régime le bâton pour frapper les Togolais et pour frapper Guy Marus Sagna. Pourquoi? Parce que si les autorités togolaises se permettent de créer les conditions pour que des individus viennent agresser un député de la CEDEAO qui est dans une rencontre pacifique avec des citoyens togolais, c'est que la CEDEAO a laissé la place grandement ouverte pour que de telles choses puissent se produire. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que la CEDEAO, c'est notre organisation commune. Et la CEDEAO a des règles. Or, il se trouve que le Togo a très régulièrement enfreint les règles de la CEDEAO. Mais la CEDEAO s'est toujours tue. Notamment lorsqu'il y a eu un changement de constitution de manière illégale, la CEDEAO n'a rien dit. Donc, en franchissant les limites et que les organisations, l'organisation sous-régionale ne dit rien, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui les autorités togolaises aillent jusqu'à créer les conditions pour que un député de la CEDEAO soit agressé. Et donc, ce communiqué de la CEDEAO, c'est une fuite en avant. En disant, la manifestation, la réunion n'a pas été autorisée. Mais, bon Dieu de bon sang, qu'est-ce qu'une rencontre avec des citoyens paisiblement assis constitue, en quoi est-ce que ça constitue un risque, une menace pour la République togolaise, au point qu'on soit amené à disperser les gens? Vous savez, je voudrais partager avec les Togolais une chose. Le Togolais est quelqu'un de pacifique, qui reçoit les étrangers les bras ouverts. Mais l'acte qui est posé aujourd'hui, au nom du peuple togolais, mais est-ce que cela ne ferme pas la porte aux Togolais à l'extérieur? Nous avons beaucoup de Togolais qui sont au pays de la Teranga, au Sénégal, le pays de l'accueil. Comment pouvons-nous traiter un étranger chez nous de cette manière-là? Et quand j'ai entendu le député Guy Marus Sagna, il a dit dans son interview, si on fait ça en présence du Parlement de la CEDEAO au Togo, qu'est-ce qu'on fait aux Togolais lorsque le Parlement de la CEDEAO n'est pas présent, n'est pas présent au Togo? Vous comprenez que on a mis ce pays, on a mis les Togolais sous éteignoir. Vous n'avez droit à rien, vous n'avez pas droit à la parole, c'est nous qui décidons, vous voulez discuter à deux, nous devons vous donner l'autorisation, vous voulez être à 10, on doit vous donner l'autorisation, sinon, eh bien, on vient tout casser ou on vous jette en prison. Est-ce qu'on peut continuer à gérer le Togo comme ça? C'est pour ça, et je vais m'arrêter sur ça, c'est pour ça que moi j'appelle la CEDEAO à porter un regard plus attentif sur ce qui se passe au Togo et ne pas continuer à laisser le Togo, l'État togolais, fonctionner en roue libre et franchir toutes les lignes rouges les uns, les unes après les autres.
Sylvestre, oui, vous avez écouté la sortie du Parlement de la CEDEAO, mais sur le sujet, vous avez titré aujourd'hui sur cette question de violence qui s'est déroulée alors le dimanche dernier. Vous écrivez Togo, violence au pays de paix, même un député étranger, député de la CEDEAO n'est pas épargné.
Oui, vous savez, nous avons franchi le Rubicon, comme on le dit, nous avons franchi un palier, parce que nous nous sommes habitués, quoi. Vous savez, il y a déjà cette formule-là qui passe partout, déjà frappé, quoi. Nous, les Togolais, nous sommes déjà frappés. Mais là, qu'on franchisse un palier pour exercer des violences sur un député étranger, je crois que nous avons franchi le Rubicon. J'ai lu tout à l'heure, comme vous, le communiqué de la CEDEAO. D'abord, les faits sont passés le dimanche. Et la CEDEAO, le Parlement a attendu 4 jours après, c'est-à-dire aujourd'hui, pour sortir un communiqué.
Mais là aussi, c'est parce qu'on doit savoir les tenants et les aboutissants,
tout. Non, c'est déjà un mépris vis-à-vis donc de l'heure. Maintenant, l'autre chose, c'est que il est dit, dans le communiqué de la CEDEAO, une manifestation non autorisée. Nous sommes des journalistes, nous travaillons sur des faits. Est-ce que depuis le dimanche, vous avez vu un communiqué qui interdisait ce qui s'est passé, la réunion de dimanche?
La police également le disait. Avec le communiqué de la police, on dit plutôt que c'est une manifestation non autorisée.
Oui, mais ce que j'ai dit, nous sommes des journalistes, nous travaillons sur des faits. Quand le front touche pas à ma constitution, quand on devait interdire leur manifestation, au moins nous avons vu un communiqué du ministre qui interdisait la manifestation. Mais depuis dimanche, est-ce que vous avez vu un communiqué qui interdisait la rencontre de dimanche au siège de la CDPA? Vous avez vu un communiqué depuis là?
Non.
Donc ça veut dire que bon, s'il n'y a pas, donc ça veut dire que ça n'existe pas. Mais c'est que comme s'il y a un communiqué, mais qu'on nous le donne. Vous avez vu que la dernière fois, des confrères ont posé la question à Guy-Marie Sagnan, mais il participait à une manifestation, une rencontre interdite. Vous avez écouté la réponse de la personne. Il dit, vous aussi, vous ajoutez aux rumeurs. Vous êtes des journalistes, vous ne devez pas être dans la logique de colporter des rumeurs. Est-ce que vous avez vu l'interdiction? Est-ce que vous avez vu l'interdiction? Maintenant, prenons le communiqué de la DMP. Dans le communiqué de la DMP, il est dit que les forces de l'ordre sont arrivées autour de 10 heures et ils ont dit aux organisateurs, non, soyez sans crainte, nous sommes là pour assurer votre sécurité. Mais ils sont là pour assurer la sécurité d'une manifestation interdite. Je parle donc les forces donc de l'ordre. Ils sont là pour assurer la sécurité d'une manifestation interdite. Normalement, ce qu'on voit d'habitude, ils viennent pour charger, pour demander aux gens, dispersez-vous parce que la rencontre est interdite. Mais là, quand une rencontre est interdite et que la police ou les forces de l'ordre disent aux organisateurs, nous sommes là pour assurer votre sécurité, ça veut dire qu'il y a problème. Vous voyez, lorsque vous prenez donc tous ces éléments-là réunis, ça veut dire que, en réalité, tout ce qui s'est passé la dernière fois, peut-être c'est un acte, c'est une préméditation. C'est un acte prémédité. Voyez-vous, on laisse les gens rentrer en sachant peut-être que nous, dans notre imagination, nous avons interdit la rencontre dans notre imagination, pas par un acte, et donc rentrer et après on s'occupera de vous, et c'est ce que nous avons vu la dernière fois.
D'accord. Alors, vous avez écouté aussi le communiqué du Parlement de la CEDEAO. Quelle appréciation vous faites alors de ce communiqué?
Quelle appréciation on doit faire de ce communiqué? Moi d'abord, il faut condamner tous ces gens d'action, ce qui s'est passé la dernière fois au sein de la CDPA, parce que ce n'est pas normal qu'on expose notre pays au plan international comme ça, parce que quelqu'un veut parler, on vient, on l'agresse, et après c'est des choses. Moi je me suis demandé par rapport à ça, parce que ça avait commencé, on devait prendre les dispositions, même au niveau de la DMP ou de la CDPA, pour sécuriser en interne cette rencontre. Parce que quand les gens disent, on sait, on a vu qu'il y a des gros bras qui sont arrivés. Les gens sont arrivés gros bras pour faire quoi? Ils sont des militants de la DMP ou bien de la CDPA. Et on les laisse rentrer, aller s'asseoir. C'est eux qui balancent les choses. Donc aujourd'hui, quand ça avait commencé, on a dit, le ministre de l'Intérieur, de l'administration territoriale a écrit, a saisi le président du Parlement, de la CEDEAO pour lui signifier que voilà qu'il y aura un parlementaire va rencontrer les citoyens togolais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Parlement a répondu et que le Parlement avait convoqué même Sagnan, le député Sagnan, pour lui dire ce qui se passe. Donc il n'y a pas une lettre d'interdiction comme ça pour dire qu'on interdit la manifestation ou bien la réunion. Seulement, ce qui a été interdit ou bien refusé, c'est la réunion au niveau de l'église.
Tout à fait, à Moutiville.
À Moutiville, là, c'est ça qui a été interdit. Et les gens disent qu'ils ne peuvent plus accueillir cette rencontre ici, dans cette église, qu'il faut délocaliser. Et la CDAO et la CDPA délocalisée. Et là, j'ai dit, par rapport à ce communiqué, bon, et ils ont vu, peut-être ils ont attendu pour faire des recoupements. J'ai vu aussi la CNDH qui a été saisie, qui a fait aussi des recoupements, qui dit qu'il y a des éléments également qui va aider, des éléments qui vont aider au procureur, qu'ils ont soumis au procureur, pour que le procureur puisse faire le travail. Je pense que c'est sur ce point-là qu'il faut bien agir. Prendre ces institutions-là qui ont pris les dossiers à main, surtout la CNDH, mettre pression sur la CNDH qui a remis, qui a déjà des éléments, qui a remis ces éléments-là au procureur pour les enquêtes, puisque le gouvernement a parlé qu'une enquête sera ouverte. Pour que cette enquête qui sera ouverte ne soit pas dans la pérennité, dans quoi on ne veut pas, qu'on a l'habitude de dire qu'on ouvre des enquêtes qui ne se referment pas, il faudrait que les gens mettent la pression et que même les partis politiques de l'opposition qui sont là, tout le monde mette la pression pour qu'on ait les résultats de ces enquêtes-là avant même que la CDAO ne finisse sa mission, sa session au Togo. Donc je pense que c'est ça même qu'il faut voir, au lieu de non plus s'en tenir au communiqué, mais il faut aller dans les faits, dans la réalité des faits, dans la pratique.
D'accord. Monsieur Olympio, c'est vrai qu'Abbas a évoqué un point tout de suite concernant surtout la sécurité au sein de, enfin, au niveau des organisateurs. Alors, est-ce que cette sécurité n'a pas failli? Parce que déjà quand on a appris que déjà à Moutier-Vée, l'événement devait se tenir même d'abord à Moutier-Vée, dans l'église, à Moutier-Vée de l'église catholique, mais finalement on a demandé qu'ils viennent alors prendre leur argent, mais ça ne devait pas donner une alerte, et pour qu'on prenne vraiment des dispositions.
On n'a absolument rien à reprocher aux organisateurs. Je le dis net. Parce que si j'avais été organisateur, je n'aurais pas pensé que une rencontre citoyenne paisible puisse engendrer de tels actes de violence. Je n'y aurais même pas pensé. Donc, il n'y avait pas de mesure de sécurité particulière à prendre en dehors de ce que la DMP a l'habitude de mettre en place quand ils ont leur réunion. Non, ça c'était un faux débat. La responsabilité, c'est celle de l'État togolais. Vous savez, quand il y a eu le massacre de Fréau-Jardin, les plus jeunes ne le savent peut-être pas. Quand il y a eu le massacre de Fréau-Jardin, je crois que c'était en 91, si je m'abuse. 91, c'est la lagune de Bay. Oui, en 93. Quand il y a eu le massacre de Fréau-Jardin, il y avait au Togo deux ministres européens, le ministre des Affaires étrangères français et le ministre allemand des Affaires étrangères, qui était là dans le cadre des problèmes politiques que le Togo rencontrait. Ça n'a pas empêché le pouvoir de commettre ces massacres. Ils ont l'habitude, parce qu'ils font des choses dans l'impunité. Tout ce qu'ils font est sans conséquence. Ils se disent que les gens vont en parler un jour, deux jours, et puis ça va se tasser. C'est le comportement, c'est comme un enfant qui a été trop gâté, à qui on a laissé faire toutes les bêtises. Eh bien, quand il devient adolescent ou bien préadulte, il nargue tout le monde. Parce que il a eu l'habitude de faire ce qu'il a envie de faire sans conséquence. Je voudrais terminer sur une chose. Et dans cette affaire, il y a eu des blessés. Des gens qui ont reçu des coups de briques sur la tête. Mais ça peut tuer des gens.
Y compris des journalistes.
Y compris les journalistes. Y compris les députés. Madame Adjamabou a été agressée. Et son chauffeur a été agressé. L'ancien député Targon a reçu une brique sur la tête. Les journalistes, les gens ont été molestés. Mais dans quel pays sommes-nous pour qu'on traite les citoyens de cette façon? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cela? C'est une question à laquelle les autorités doivent répondre. Et quand j'ai entendu la ministre de la Communication se permettre, je dis bien se permettre, de dire que c'était une bagarre entre militants. Mais c'est extrêmement grave qu'une autorité manipulent l'information de cette façon-là pour se mettre à l'abri de la forfaiture qu'ils ont provoquée. Comment peut-elle avoir le courage de dire sur les ondes, c'est une bagarre entre militants. Monsieur le député Guy Barusania est un militant d'un parti au Togo. Pour qu'on le prenne à partie, c'est irresponsable de leur part.
D'accord. Sylvestre.
Non, en fait, je voulais rebondir par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure le doyen Abbas, qui disait que le fait que la manifestation qui devait se tenir au niveau de Amoutievi, le fait que ceux-là ont dit « Venez prendre vos dans nous pouvons plus ça de devait déjà donner des alertes aux organisateurs et donc et de sécuriser leur rencontre. Non, moi je voulais dire qu'en fait, la sécurité appartient à la force publique. Et donc, il ne revient pas aux organisateurs d'avoir un groupe d'autodéfense. Là, ça veut dire que finalement, si tout le monde doit avoir sa sécurité privée, mais à quoi joue, quel est le rôle que joue encore l'État? L'État a le... En fait, bon, entre guillemets, l'État a le monopole de la violence. L'État doit assurer la sécurité de tout le monde, de vous et moi, de nous tous. Voyez-vous? Mais si tout le monde doit organiser quelque chose et donc d'avoir un groupe pour sécuriser, là, on serait dans l'anarchie totale. Voyez-vous, c'est pourquoi est-ce que les forces de l'ordre qui étaient là et qui ont dit, si je me réfère donc au communiqué de la DMP, et qui ont dit, soyez sans crainte, nous sommes là pour assurer votre sécurité. Voilà qu'il y a grabuge, voilà qu'il y a certains individus non identifiés qui s'apprennent à d'autres personnes, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas intervenu? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas intervenu? Alors qu'en amont, ils les avaient rassurés que nous sommes là pour assurer votre sécurité. Vous voyez, lorsque vous prenez tous ces éléments-là, c'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est comme si c'était une préméditation. Voyez-vous, maintenant, vous prenez même le communiqué de la police. Je crois que c'est pas un fake, hein.
Oui, mais c'est justement... C'est
oui, vous prenez le communiqué de la Direction nationale de la police, mais qui confond les lieux, c'est-à-dire qui dit que la scène s'est passée à Hankopé. Vous voyez, c'est-à-dire que les faits se sont produits le dimanche, et deux jours, trois jours après, la Direction nationale de la police n'est pas arrivée à identifier même le lieu. À savoir où est-ce que ceux-là ont violenté les personnes, mais qui se trompent d'adresse et qui dit que c'est au niveau de Hancock, au siège de la CDPA. Vous voyez, donc, lorsque vous voyez tout cela, je me dis qu'il y a problème, quoi.
Vous voyez, je voudrais juste rappeler une chose aussi, pour que les auditeurs, les Togolais qui nous écoutent, se rendent bien compte que ce régime ne fait rien au hasard. Le 18 octobre 2017, la date est marquée dans mon esprit comme si c'était hier, le 18 octobre 2017, en pleine manifestation de protestation contre le régime. À quoi on a assisté? On a vu le régime sortir des milices dans les rues de Lomé pour tabasser la population devant les forces de l'ordre qui sont restées sans bouger. C'est comme ça que le régime fonctionne. Quand ils veulent se dissimuler, quand ils ne veulent pas que l'on dise la police ou la gendarmerie a fait ceci, ben ils se dissimulent derrière des gens. Et quand on voit le comportement de ces gens, on se rend bien compte que ces gens, ce sont des professionnels. D'où viennent-ils? Est-ce qu'ils viennent de la police? Est-ce qu'ils viennent de la gendarmerie? Est-ce qu'ils viennent de l'armée? Je n'en sais rien. Mais quand je vois leur comportement, ce sont des gens formés.
Est-ce que ça veut dire que ce que vous venez alors de dire, ça veut dire que ce n'est pas du nouveau ce qui s'est passé?
C'est l'habitude de ce régime. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et je dois souligner qu'en 2017, il a fallu que le département d'État américain et le ministère français des Affaires étrangères sortent des communiqués pour dire à ce régime de retirer les miliciens de la rue. Et c'est ce qui s'est passé après. Ils ont retiré leurs miliciens.
Et il a dit que Guy Barusania organise une conférence de presse déjà ce matin à Dakar pour situer même les faits et dire exactement aux journalistes ce qui s'est concrètement passé. Abbas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de condamnations déjà au niveau des partis politiques, au niveau de la presse également, il y a des condamnations, mais d'aucuns demandent quand même qu'il y ait une enquête sérieuse qui soit faite autour de cette violence. Pour qu'on situe les auteurs de ce qui s'est passé.
Oui, j'ai parlé tout à l'heure de cette enquête-là. Et que, comme l'enquête est annoncée, si elle est ouverte, qu'on aboutisse à voir la vérité des faits. Et qu'il y a également que les enquêteurs, il faut prendre quelqu'un sur son mot. Lorsque la personne a dit je vais ouvrir une enquête, il faut le prendre et le suivre. J'ai dit tout à l'heure de ne pas rester sur effets d'annonce, d'aller concrètement aux actes, faire les enquêtes pour aboutir à ceux-là. Quels sont ceux-là qui agissent dans cette salle? Ils sont combien? Et puis on n'a pas pu les maîtriser. Ils sont combien dans la salle? Parce que quand vous prenez la salle de conférence de la CDPA, c'est une salle, peut-être qu'on a installé les chaises aussi également dehors pour que les gens s'asseyent. Mais ceux-là qui sont entrés, qui ont
commencé... Non, ce n'est pas au niveau de Hankopi. C'est plutôt au niveau... Il y a le nouveau siège, c'est au niveau de Baie. Pas loin de la clinique d'Amaroui. Voilà. Bon.
C'est là je disais que...
Donc il n'y a personne quand même s'est installé dehors.
Donc je pense que quand j'ai parlé tout à l'heure de mesures sécuritaires internes, nous on a couvert les meetings de l'opposition, les marches de l'opposition. Et lorsqu'il y a un meeting d'opposition dans les années 90, ceux-là, lorsqu'il y a un meeting au niveau du terrain de paix, cimetière là-bas.
Benigato.
Ceux-là qui font même, qui font coup de fouille, même ceux-là qui rentrent, les militants qui rentrent là, c'est les militants, les forces, je dis les membres, les militants, les forces de l'opposition qui sont là pour voir celui-là, est-ce qu'il n'a rien sur lui? Celui-là, est-ce qu'il n'a rien sur lui? Et c'est comme ça, on faisait la sécurité de ces grands militants-là qu'on a suivi jusqu'à même en 2017, comme ça. Lorsque vous arrivez, on sait qui vous êtes. Même la police est là à côté, mais c'est les militants, même c'est les partis qui s'organisent pour faire la sécurité des leaders des partis politiques de l'opposition. Et vous allez voir comment c'était organisé. C'est pour cela que j'ai parlé. Je ne parle pas d'autodéfense pour dire que quand les forces de l'ordre vont agir, il faut aller les contrer. Mais l'organisation en interne, toute l'opposition, les leaders de l'opposition, c'est qu'ils ont cette organisation en interne pour voir qui est qui dans ces situations. Parce qu'il y a des infiltrations. À chaque manifestation, il y a beaucoup d'infiltrations. Les gens profitent de ce genre de situation pour aller causer des troubles. Donc pour mesurer, pour prendre la mesure de ce genre de choses, qu'on puisse prendre sérieusement à bras le corps ce que moi j'ai dit, l'organisation interne sécuritaire. Parce qu'on ne peut pas dire que on a confiance totalement et on laisse faire. Parce que l'État, on dit que l'État dispose de tout. Mais malgré ça, ce n'est pas que vous allez avoir des gens en interne pour aller affronter les forces de sécurité et de l'ordre pour faire la loi. Donc, par rapport à ça, à l'enquête, je pense qu'il faudrait qu'on aille jusqu'au bout.
Okay.
Parce que le gouvernement a annoncé, tout le monde dit soutien. La CNDA, je l'ai dit tantôt, dit qu'elle a des éléments qu'elle a envoyés au procureur. Que ça aille vite.
D'accord, que ça aille vite, cette enquête. Merci, chers confrères, et aussi à Monsieur Olympio. Nous allons maintenant écouter nos compatriotes, puisque c'est le principe de l'émission. Nous allons les écouter et aussi se prononcer sur cette actualité, ou du moins sur ce débat fait ici en studio. Mais bien avant, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs.
Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu, les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com.
La SNBC surprend encore avec le grand jeu Capsule Jama. Du 15 septembre au 31 décembre 2024, ouvre une bouteille de Jama et gagne des lots incroyables. Rendez-vous dans ton point de vente préféré pour découvrir le lot dont la capsule de Jama Start Porter, Jama Pilsner, Jama Laja, Jama 228 et Jama Panaché. Maximise tes chances de gagner une voiture de marque BAIC de Diwa, des réfrigérateurs, des téléviseurs, des bons d'achat des produits Jama, des portables, des t-shirts, des décapsuleurs, des bouteilles de gaz, bref, plus de 200 000 lots à gagner avec Jama.
Vraiment?
Oui, je dis bien 200 000 lots à gagner. Attention, ta bouteille gratuite de 33 centilitres est à retirer immédiatement dans ton point de vente préféré. Plus d'infos sur le site internet de la SNB, sur la page Facebook et Instagram de Jama ou encore au 70 49 95 48 ou au 70 49 95 49. Règlement du jeu déposé au cabinet de Maître Tim C, huissier de justice. Avec Jama, on est ensemble.
de gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, pour votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à haut de gamme de Canal Boutique. Costume, deux ou trois pièces. Saharienne, blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. À haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. À haut de gamme de Canal Boutique, vous trouverez des parfums de grande qualité. Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Lodato. Contact 90 77 97 07.
Voulez-vous vous former dans une université d'excellence? Choisissez l'École supérieure de l'aéronautique et des technologies, ESAT Togo, qui forme des ingénieurs dans les domaines suivants: aéronautique, génie aéronautique, big data, intelligence artificielle, réseau de télécommunications, géomatique et topographie, pétrochimie, robotique et des licences en maintenance automobile, système embarqué, raffinage de pétrole et pétrochimie, géomatique appliquée. Agréé par l'État togolais, ESAT Togo est une filiale des Actunis, une université accréditée par Label Euras. Les inscriptions sont ouvertes et limitées. Pour tout renseignement, retrouvez-nous à Agouet-Télé-Sou ou rendez-vous sur notre site internet www.esat-togo.tg. Infoline 90 54 81 81 96 53 51 51. ESAT Togo, l'avenir commence ici.
Bonjour Tata, comment allez-vous?
Bonjour Irène. Chez moi, ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent, là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça, là. Nous bouffons tout, là.
Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse.
Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de comptes, là, je ne maîtrise pas, hein.
Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1 plus 1 là.
Ah bon, Irène?
Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer.
Et, je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comme mon meunier.
C'est très simple, Tata, je t'explique.
Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le plus 228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com.
Du 8 au 14 octobre 2024, le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé vous ouvre les portes de sa 11e édition sur le thème « Agriculture durable, gage d'une sécurité alimentaire dans un contexte de changement climatique » autour des expositions, des panels, des rencontres professionnelles et des concours. Vous avez des projets agricoles et vous recherchez du matériel agricole, des partenaires techniques et financiers? Vous voulez conduire des projets en élevage ou vous êtes un acteur des produits agricoles locaux? Venez échanger avec les acteurs nationaux et internationaux. Le Cialo, c'est aussi un pôle de produits bio et une expo élevage du 8 au 14 octobre 2024. Entrée libre et gratuite. Info 70 24 88 13. www.salon-agriculture.tg. Cialo, de la terre à la table.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce mercredi. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35. Premier auditeur que nous avons. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Ça va bien.
C'est Johannes.
Oui.
Allez-y.
Je ne sais pas si vous, les journalistes, vous arrivez à comprendre le silence de la HAC, alors qu'il y a des journalistes qui ont été blessés dans cette affaire. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre le silence de la HAC. À moins que je me trompe. Je ne sais pas si jusqu'alors la HAC a réagi. C'est quand même étonnant qu'une institution qui est là pour les journalistes, on ne parle pas de, je ne sais pas, uniquement de pertes de matériel, mais on parle de blessés. Et là, jusque-là, la HAC ne réagit pas. Vous comprenez pourquoi je demande à SAS de ne pas aller se mélanger à ces gens. Parce que normalement, dans un pays, ça serait un honneur pour un citoyen qu'on l'appelle pour servir son pays. Mais dans notre Togo, là, quand on t'appelle, tu commences à réfléchir par rapport à ceux qui t'appellent, ce qui est un souci. Merci.
Merci, Ioannis, pour votre intervention 90-86-35-35. Allô?
Bonjour, Basile.
Oui, bonjour, Basile. Comment vous allez?
Ah, tout goulaisement.
D'accord. Allez-y.
Et, salut, monsieur Olympio. Et, Abbas et Béni.
Tout à fait.
Je les salue aussi. Ils ont fait de très bonnes analyses. Donc, seulement, celui qui vient de sortir a parlé de la HAC. Moi, je vais parler de nos grandes institutions. La présidence de la République, le premier ministre, le ministre de la Sécurité, le ministre de l'administration territoriale, ainsi de suite. On a vu même la gendarmerie sur les lieux. Est-ce que le directeur de la gendarmerie a sorti un communiqué, tout ça là, la petite foi que la dame ministre en état, je pense que c'est prudent, oui, a voulu dire, c'est pour venir dire que non, c'est entre les gens de la CDPA. Et puis c'est tout. Bon, ça ne démontre pas que ce qui s'est passé là-bas, c'est quelque chose que bon nombre savait. Tout ce que j'ai cité là, ça ne veut pas dire ça. Il faut nous éclairer. Hein.
Merci beaucoup, Basile, pour votre intervention. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va.
C'est M. Maouto.
Oui,
allez-y.
Ma question à M. Abbas. Est-ce qu'on peut demander à un voleur, sachant bien que c'est lui-même qui a volé, d'arrêter ce voleur, ce dernier? Parce que cette enquête d'enquête là, ça n'a à rien. Ceux qui sont partis poser cette tête là, la fois derrière là, ce sont les ministres et c'est les groupes organisés, les groupes de droits de femmes. M. le ministre l'a dit en 2012, ils sont connus, c'est un corps bien organisé. Donc, c'est la peine de dire que cette enquête là, ça n'aboutira à rien. Vous voyez même les communiqués de la CDAO et de la police et de madame la ministre de la communication. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est planifié. C'est comme ça que le pays fonctionne. Pour la CDAO, pour la CDAO. C'est un conflit qu'il y a. C'est la victoire. Merci, bonne émission.
Merci, monsieur Maouto, pour votre intervention. 90-86-35-35-91-36-63-75. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
C'est M. Nyamavo?
Non, c'est Ouyao.
Ah, c'est M. Ouyao, justement.
Depuis Nouapé.
Depuis Nouapé, allez-y.
Ah, vraiment, je suis désolé. Vraiment, l'honorable Brigitte Adiamago, elle a reçu son coup. Je m'explique. Parce qu'elle-même, elle savait qu'au Togo, quand elle va faire des choses, elle faisait les trucs qu'on la refusait. On l'a interdit de ne pas faire. Elle a cherché à tout pas maintenant à aller à l'église. Et les hommes de l'église lui ont dit, c'est ce que vous avez dit là-bas, qu'ils lui ont dit de venir prendre leur argent. Ils ont pris. Donc, Brigitte savait qu'elle veut mettre le Togo dans les problèmes. Elle savait ça. Et maintenant, c'est ceux qui sont venus faire l'action, eux qui n'ont pas bien réfléchi pour savoir que, Brigitte veut maintenant exposer le Togo, c'est-à-dire dans tout le monde entier. Elle a réussi son coup. C'est ce qu'elle a fait. Puis aujourd'hui, notre Togo est mal vu à l'extérieur. J'ai un ami au Sénégal, il m'a appelé vraiment. Comment il me parlait vraiment, je suis vraiment découragé. Carrément, comment lui, c'est un chauffeur, à l'aéroport au Sénégal là-bas. Viens voir comment on les faisait depuis avant-hier. C'est pas bien. Moussa Diagne n'attend vraiment. Elle a su qu'elle va mettre le train, elle va plonger le Togo dedans. Donc c'est ce qu'elle a fait. Merci, bonne émission.
Monsieur Yao.
Oui.
Allô, monsieur Yao.
Oui.
En quoi ça peut être dérangeant quand on organise une rencontre citoyenne?
Ah bah, pour moi, je ne sais pas ce que ça peut déranger. Elle savait que si elle va faire comme ça, on va l'interdire. C'est ce qu'elle a fait, elle a mis le Togo dedans. Terminé.
D'accord. Ok. C'est votre manière de penser aussi. 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
D'accord. Le nom, c'est? Votre nom?
Gérard.
C'est Gérard.
Oui.
Il y a un peu de bruit à côté de vous.
Vous savez.
Oui.
Vous, les journalistes là-bas, je vous jette les fleurs. Vous avez bien parlé. Tout ce qui se passe. Est-ce qu'un homme politique peut tenir une réunion à Cara? Non. À Lomé, c'est pareil. Ils ont recruté des gens, je vous assure. Mais je sais que ces gens-là, ils vont devenir des fous. C'est ça, c'est tout ce qui se passe là. Le régime pense qu'ils gagnent. C'est comme ça, ils ont leur salaire, ils construisent leur maison. Ce qu'on ne fait pas là, c'est les gens, comme vous l'avez dit, les gens, c'est des gens qui sont recrutés pour le service de l'île. Je vous assure. Tout ce que vous citez, tout ça là, c'est comme ça. Et au niveau de ADU, les gens qui voulaient là, ce n'était pas devant la gendarmerie de la police militaire, mais les enseignants faisaient la grève. Les policiers sont sortis, ils n'ont pas tué les élèves. Vous voyez, la population, bon, encore maintenant le régime appelle les gens que chacun n'a qu'à apporter sa pierre pour construire le pays. On ne peut pas se réunir dans une maison ou bien quelque part pour parler de l'avenir de notre pays. Là, le mieux, moi je dis qu'il faut qu'on les laisse. On les laisse, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Merci et bonne émission.
Merci beaucoup, Gérard, pour votre intervention. 90-86-35-35. Allô?
Oui, bonjour, cher ami.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien. Oh.
Votre nom, c'est?
Benoît Dagoué.
Ah, Benoît.
Oui.
Allez-y.
Et vous venez de dire qu'ils ont demandé une messe à la paroisse Saint-Augustin d'Amokévé.
Non, ce n'était pas une messe, Benoît. C'est plutôt l'activité, la rencontre citoyenne qui devait normalement se tenir là-bas.
Vous avez dit qu'on leur a appelé pour venir prendre leur argent.
Oui, c'est justement, c'est ça.
Et c'est, l'argent, c'est pour l'église, non?
Non, en fait, puisque c'est la salle devait être louée.
Ah, ok. Ah, ok. Bon, moi, je dis, je ne sais pas comment dire. Si les gens disent au Togo que ils ont créé du chef de l'État, du chef de le Togo de telle manière, alors que le chef de l'État lui-même, il parle de que chacun porte sa pied devant ses pères à l'ONU. Et je me demande dans quel Togo sommes-nous. Votre invité parle de le régime est irresponsable. Mais moi, plutôt, je dis que c'est, vous m'excusez, c'est l'opposition qui est irresponsable. Parce que le pouvoir donne beaucoup d'opportunités. Je ne sais pas si on envoie la lettre d'information au ministre ou bien au préfet, ils ont mentionné les gens ou bien les organes qui devaient assister. Et le ministre a vu dedans que tel organe n'est pas crédible. Ils organisent beaucoup de choses tout avant. C'est les mêmes remarques. Vous voulez informer la personne, vous qui êtes à la tête, vous informez la personne. Est-ce que venir? Non, vous n'êtes pas obligé de dire que c'est tel membre qui va arriver. Votre organisation va organiser ceci. Point. Et si y a même ONU qui va venir, vous ne devez pas le leur dire. Vous connaissez l'UNIR. Merci
beaucoup, Benoît, pour votre intervention. Nous allons recevoir notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô? Allô, bonjour. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, monsieur Pascal Loussou.
Oui, votre nom, c'est?
C'est Jazz.
Pardon?
C'est Jazz.
Jazz?
Oui, Jazz.
Vous nous appelez de quel quartier?
J'appelle Adido Gomé.
Adido Gomé, allez-y.
Oui, je voudrais intervenir par rapport au débat.
Oui, allez-y.
D'abord, c'est dire que je suis très indigné par tout ce qui s'est passé, parce que ce sont des choses qui ne nous honorent pas, hein, et ça ne fait pas grandir notre pays. Hein. Et je crois qu'à l'avenir, il faudrait que ceux qui commettent de tels actes réfléchissent un peu. Pourquoi je dis ça? J'ai passé la grande partie de ma vie à l'étranger. Et je sais ce que c'est. Et je voudrais leur demander, hein, de ne pas mettre la situation de nos compatriotes qui vont à l'étranger pour se chercher, de ne pas mettre leur existence en difficulté. Ça, je tiens à ça. Hein? Parce que eux, ils sont dans le pays, ils ne sortent pas. Ils ont tous les privilèges. Hein? Mais qui ne mettent pas en difficulté nos compatriotes qui sont à l'étranger. Voilà ce que je voulais dire.
D'accord. Merci beaucoup, M. Diaz, pour votre intervention. Alors, je pense que M. Diaz est le dernier auditeur pour le compte lors de cette émission de ce mercredi. Nous allons revenir en studio, hein, pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Alors, M. Olympio, vous avez écouté vos compatriotes qui se sont prononcés sur l'actualité telle que nous l'avons débattue ici au Club de la Presse. Votre réaction?
Ce que je vais dire, c'est que il ne faut pas changer le sens des responsabilités. On ne peut pas imputer aux organisateurs, à la DMP, à la CDPA, à Mme Brigitte Adjamagbo-Johnson, la responsabilité de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que des gens, tapis dans l'ombre quelque part, ont décidé d'envoyer leurs nervis qui sont venus semer les désordres, qui sont venus semer la désolation, la violence sur des personnes paisibles, des députés et des députés étrangers. C'est ça la vraie situation. C'est pour ça que nous devons tous exprimer notre indignation. Moi, je suis indigné, je suis révolté parce que cet acte-là, il a jeté la figure de tous les Togolais par terre. Nous tous, nous sommes concernés parce que quand les gens parlent de cette affaire à l'étranger, ils disent « les Togolais ont fait ceci, les Togolais ont frappé le député Guy Marius Sagnan ». Le député Guy Marius Sagnan lui-même, il sait qu'il a été accueilli avec beaucoup de plaisir, il a été accueilli en paix. Il le sait. Et il sait exactement qui sont les responsables de l'assaut qu'il a subi. D'ailleurs, il a dit dans son interview. Donc moi, la seule chose à laquelle j'appelle les autorités togolaises, c'est que une fois que leur forfait est accompli, il ne faut pas que les institutions, il ne faut pas que le porte-parole du gouvernement vienne servir au monde des choses qui sont complètement aberrantes. Ça ne fait que enfoncer les Togolais. Et même quand des communiqués sont produits, il faut que ces communiqués-là ne viennent pas nous ridiculiser davantage. C'est ce que moi je leur demande.
D'accord. Sylvestre, nous sommes à la fin.
Oui, je crois qu'il y a un auditeur qui a posé la question, ça, pourquoi cela, la HAC n'a pas réagi.
Tout à fait. C'est Johannes.
Oui, je crois que tout le monde a été quand même surpris du silence de la HAC, parce que lorsque vous prenez la première mission de la HAC, c'est d'assurer, de garantir la liberté, la protection de la presse. C'est la première mission de la HAC. Alors, vous avez vu que ce qui s'est passé le dimanche, ça veut dire que la presse est menacée. Et donc, la HAC se doit donc de protéger cette liberté, au moins de sortir un communiqué, hein, pour ne serait-ce que exprimer sa compassion, hein, pour les confrères, là, parce que lorsque vous voyez, surtout le confrère de Issy Lomé, et Godfrey Rakka, lorsque vous voyez ce que ce jeune-là a subi, hein, sur le terrain la dernière fois, c'est l'image est insoutenable.
De même que Hyacinthe Gbedjo, il y a aussi une femme, bien sûr, Yvette Soussou, qui a été molestée, bastonnée, hein, déjà là, c'est seulement...
Ouais, donc c'est pourquoi je dis, bon, peut-être que dans les prochains jours, la HAC va sortir un communiqué, puisque je le précise, sa première mission d'abord, c'est d'assurer, de garantir la protection et la liberté de la presse. Là, la presse est menacée.
D'accord.
Il ne faudrait pas qu'on entende seulement la HAC prendre des décisions pour sanctionner les journalistes. Mais là, je crois que la HAC doit intervenir.
D'accord. Abbas ?
Il y a quelqu'un qui a dit que j'ai dit qu'il faut arrêter les voleurs.
Oui, c'est là, monsieur Mauto.
Est-ce qu'on peut demander à un voleur d'arrêter un voleur? Je pense qu'on peut demander à un voleur d'arrêter un voleur parce que les voleurs se connaissent. Si on fait pression, le voleur là va dénoncer les autres.
Ah, donc les voleurs se connaissent.
C'est comme les sorciers se connaissent. Donc si on fait pression sur la personne, le voleur peut être un voleur parce que quand on arrête quelqu'un, il va dénoncer ses complices. Donc, c'est comme ça, il n'a qu'à comprendre qu'il n'y a pas, il ne faut pas être dessus ou bien pessimiste pour dire qu'on ne peut pas arrêter.
Mais alors, souvent, les voleurs sont solidaires entre eux.
Ben, ce n'est pas vrai.
C'est ah bon?
Tout à, mais si on arrête quelqu'un, un Dieu, c'est fini. Ça peut aller. Mais il faut dire que je voulais dire à se donner une note à ces populations-là qui sont allées prendre du riz avarié dans les poubelles, dans des ordures. C'est une note de 0 sur 10, moins 0 même sur 10, s'il y en a. Parce que ce n'est pas normal qu'on dit que quelque chose et n'est pas de qualité à manger. On va vous jeter et dans des ordures même, dans
la poubelle,
les gens vont se battre là-bas. Je ne sais pas si c'est pour aller vendre ou bien c'est pour consommer.
Mais c'est un message fort aussi au gouvernement. Quand les populations vont sur les dépotoirs pour se nourrir, c'est un message fort.
Et puis même, ceux-là qui sont allés jeter là, comment sont-ils pris pour aller jeter ces riz-là? On dit ça varie, c'est impropre à la consommation. Est-ce qu'on a saisi les autorités avant de le faire? Puis entre-temps, il y a un journal qui a sorti le problème de ces riz avariés ici là. Vous avez vu le problème que ce journal là.
D'accord, ok. Monsieur Olympio, un mot de la fin?
Oui, la seule chose que je voudrais ajouter, c'est que les Togolais ont besoin de vivre dans un état de droit. Les Togolais ont besoin que leur liberté fondamentale, les droits humains, soient respectés. C'est le minimum. D'accord. Et on ne peut pas répondre à cette demande-là par la violence.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Nathanel Olympio. Vous êtes président du Parti des Togolais et aussi porte-parole alors du Front Tous Pas à ma Constitution. Merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission. Merci, Sylvestre Béni, d'être passé. Abbas Isaka, merci aussi d'être passé. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à vous qui nous avez appelés pour votre intervention au Club de la Presse de ce mercredi. Merci à Thomas Ete d'ATV qui a assuré la mise en onde. Jérôme Akouta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain jeudi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Référence à Sagui Charoufara.